magazine vous propose une série de 5 podcasts qui lèvent le voile sur un métier méconnu mais stratégique dans l'entreprise, celui de la direction financière. Dans cet épisode, retrouvez Christophe Pillet, CFO de Paléo. Ce podcast vous est proposé par Romandy Formation et son diplôme fédéral en finance et controlling.
Je m'appelle Christophe Pillet, j'ai 45 ans et je suis CFO de l'entreprise Paléo Respectable depuis maintenant 19 ans.
Si on remonte le temps, qu'est-ce qui vous a attiré dans les chiffres ?
C'est un peu spécial, c'est un peu un concours de circonstances. J'étais pas du tout prédestiné à une carrière dans ce domaine-là. Encore aujourd'hui, je pense que c'est pas forcément ma passion. C'est un métier que je maîtrise dans un environnement qui me convient. Mais c'est vrai que, étant jeune, j'avais pas vraiment d'idée très concrète, comme beaucoup de jeunes, sur qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et puis, je me suis dirigé vers un apprentissage de mécanicien chez Bobst, puisqu'on m'avait dit que l'entreprise était intéressante pour la suite. Mais en fait, c'était pas du tout pour moi. J'ai fait une année. Et puis après, j'ai pu rentrer dans le domaine de la fiduciaire, qui était un monde où j'étais à l'aise, puisque j'étais à l'aise avec les chiffres, même si j'étais pas forcément à l'aise avec l'environnement fiduciaire. J'ai fait 8 ans, j'ai fait mon brevet d'agent fiduciaire et puis après je suis parti dans le côté humain, plutôt RH, comme recruteur en fait. Ça m'a beaucoup plu, de voir un petit peu les entreprises, de voir les candidats, de pouvoir plus être du côté humain de la chose. Et puis suite à ça, une annonce dans le journal, Paléo Festival recherche son responsable financier et puis j'avais 26 ans, donc hyper jeune. Et j'ai essayé, j'ai testé, et puis ça a fonctionné, ouais.
Vous êtes donc devenu CFO par défaut ?
Oui, CFO, c'est un mot anglo-saxon un peu barbare qu'on met sur LinkedIn, mais c'est pas forcément le terme qui est important, c'est surtout la fonction. Ouais.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la fonction ?
Ce qui me plaît dans les chiffres, c'est que, contrairement aux lettres, pour moi, c'est quelque chose que je maîtrise vraiment plus, qui me paraît vraiment logique et qui me pose pas de problème au niveau de l'interprétation et puis de la lecture par rapport aux chiffres.
Vous êtes directeur financier dans le domaine de la culture. En quoi cela diverge d'un autre secteur ?
C'est le produit auquel on s'identifie qui est sympathique dans ce métier-là, parce que c'est sûr qu'il faut aimer la musique, il faut aimer la culture, il faut aimer les gens, mais on est quand même une PME, hein, faut le rappeler. Une PME qu'emploie une soixantaine de personnes et puis dans laquelle on doit effectivement avoir des objectifs qui sont les mêmes, c'est-à-dire pouvoir pérenniser la société et pouvoir investir dans des projets et que la machine tourne.
Un festival d'une telle ampleur comme Paléo implique une énorme organisation en amont. Racontez-nous le planning.
Alors ça dépend des départements, hein, mais si je prends la programmation, on doit anticiper le plus, on va dire. Ça se passe quasiment une année, voire une année et demie à l'avance pour booker des artistes qui sont soit l'année en cours, soit déjà l'année prochaine. Hein. On prend le cas de Céline Dion chez nous, où on a dû la reporter déjà deux fois. On travaille déjà sur une date pour 2022 ou 2023, mais c'est des choses qui se passent bien en avance et qui permettent aussi au niveau... Si je prends plus mon métier, de fixer des budgets en fonction des situations relativement vite pour que la personne qui s'occupe de la programmation puisse avoir une vision très claire de quel budget il dispose pour la suite.
La pandémie vous a obligé à annuler l'édition 2020, puis celle de 2021. En tant que directeur financier, comment gère-t-on cette situation exceptionnelle et sidérante ?
Alors c'était, comme chez beaucoup j'imagine, mais c'était le gros choc hein, pour nous. C'est vrai qu'on avait une machine bien huilée, un super projet pour notre 45e, tout allait bien. Et puis du jour au lendemain, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème qui allait se passer assez rapidement. On a dû faire des simulations très rapides pour voir un petit peu quelles étaient les options. Puis très vite, on s'est rendu compte que ça n'allait pas être possible et qu'il allait falloir annuler cette édition du 45e avec tout ce que ça veut dire au niveau financier, humain et autres. Donc c'était vraiment une cellule de crise qu'on a dû activer très rapidement où très peu de gens ont travaillé. Puis c'était, on va dire, très difficile à vivre comme période. C'était vraiment un deuil, ouais.
Cette pandémie vous a-t-elle contraint à changer de fusil d'épaule en termes de stratégie et de planification ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la tête d'un directeur financier ?
La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est sauver l'année en cours. Hein. C'est pouvoir s'en sortir avec le moins de casse possible pour pouvoir rebondir l'année prochaine. Ça, c'était le premier élément. Il a fallu beaucoup travailler avec le service de la culture, avec le canton, avec les différents intervenants pour pouvoir pérenniser cette année 2020 compliquée. Puis après, beaucoup de simulations, beaucoup de forecasts, beaucoup de choses à faire pour imaginer des plans différents qui soient rentables financièrement, qui soient réalisables. Donc je ne sais pas combien de lettres d'alphabet on a utilisé pour faire des plans différents, mais beaucoup. Et c'était ça la principale mission de ma fonction.
Le cahier des charges d'un CFO est d'avoir une vision à court terme, mais aussi un regard à plus long terme. Comment conjugue-t-on ces deux impératifs dans le contexte sanitaire actuel ?
C'est toute la difficulté et la beauté du métier, c'est qu'il faut pouvoir imaginer des scénarios qui soient cohérents pour la suite, tout en restant, on va dire, dans le moment présent avec les conditions qui sont celles qu'elles sont aujourd'hui, et de jongler avec tout ça pour pouvoir imaginer des choses qui soient financièrement viables, mais aussi humainement, on va dire, enthousiasmantes pour les personnes, qui permettent aux employés d'avoir quelque chose à ronger et à imaginer et pouvoir venir, si j'ose dire, ou travailler depuis chez soi avec le smile. Et c'est vraiment pas facile.
La situation dure depuis plus d'un an. Elle promet de se prolonger ces prochains mois. Est-ce que vous pensez qu'elle va changer la manière d'organiser et de financer une manifestation culturelle telle que Paléo ?
C'est une très bonne question, on se la pose actuellement. C'est très difficile d'y répondre, comme beaucoup de choses dans cette pandémie. On espère qu'on va pouvoir revenir à un festival qui est humain, puisque c'est vraiment notre ADN. Hein. Nous, on n'est pas branché streaming ou autre, c'est vraiment basé sur les rencontres, sur le festival en lui-même. Et d'imaginer une société, un monde d'après, un festival d'après, complètement numérisé ou avec très peu de rencontres ou de concerts live, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Maintenant, impossible. Qui peut dire aujourd'hui comment demain sera fait, quoi. Comment 2022, déjà 2022. Hein. Est-ce qu'en 2022, on pourra faire le même festival qu'on avait imaginé en 2020 ? Pas sûr, parce que peut-être que les contraintes sanitaires vont peut-être imposer d'autres façons d'imaginer le festival. Donc, ça va être toute la difficulté pour la suite, ouais, d'imaginer ça.
On a l'image parfois austère de la profession de CFO. Pourtant, c'est une fonction extrêmement riche et transversale, à cheval entre la finance, les RH et le management. Comment est-ce que vous avez vu évoluer votre métier ?
Alors, c'est sûr que la fonction a énormément évolué en 19 ans. J'ai commencé en m'occupant simplement de la comptabilité et des finances. Puis rapidement, s'est vu greffer l'IT dessus, qui est devenu de plus en plus important, puisque sans outils financiers, aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose, sans outils informatiques. Et puis après, les RH, puisque la société a grandi assez rapidement, c'est une PME qui a grandi très, très rapidement. Les RH ont un rôle, on va dire, qui viennent démocratiser la fonction de CFO et qui mettent l'humain en avant. Et je crois que l'humain est une des fonctions clés de l'avenir par rapport à cette fonction. Parce qu'on va devoir vraiment travailler avec des personnes qualifiées, savoir s'entourer et puis mettre en valeur les compétences des gens.
Est-ce que c'est possible d'être à la fois un bon comptable, un bon manager et un bon responsable des ressources humaines et un bon chef de l'IT ?
C'est une bonne question. Moi, je pense que oui. Je pense que oui, puisqu'on va vers une démocratisation de ce métier qui, à mon avis, aura par la suite plusieurs fonctions et plusieurs casquettes. Et ça permet d'avoir une vision où on n'est pas simplement axé sur le résultat de la société, mais aussi sur les moyens qu'on emploie pour y arriver. Et je pense que c'est vraiment une casquette, en tout cas moi, qui me plaît, qui permet de, on va dire, d'équilibrer la balance de cette fonction.
On dit souvent que le CFO, c'est le vrai patron de l'entreprise. C'est votre cas ?
Je crois que ça dépend des types d'entreprises. Hein. Nous, on est dans un environnement où la hiérarchie est assez plate, vraiment très plate. Donc, moi, je crois plutôt que c'est... Si on devait comparer et imager ça, je crois plutôt qu'on est les nouveaux GPS des voitures, puisque à l'époque... Un capitaine de bateau, par exemple, pouvait, sans trop de problèmes, sans GPS, se diriger. Tandis que maintenant, avec un GPS, il a plusieurs éléments pour y arriver de manière plus efficace. Ouais.
Quelle relation entretenez-vous avec Daniel Rosla, le CEO de Paléo ?
Alors, c'est une relation assez particulière puisque c'est quand même quelqu'un qui a une forte présence, on va dire, médiatique. C'est un personnage hein, à lui seul, mais c'est vrai que c'est une personne qui nous apporte beaucoup, qui a une vision très large des fonctions, qui a créé un métier, hein, qui a créé un festival à lui tout seul. Et c'est une relation vraiment, on va dire, très proche, mais en même temps avec une certaine distance pour garder, on va dire, les priorités du métier.
Paléo Festival, c'est une PME familiale. Dans ce cas de figure, généralement, le père fondateur a souvent de la peine à lâcher du lest. Comment est-ce que vous naviguez dans cette configuration-là ?
Alors effectivement, on a quelqu'un de très présent qui est un générateur d'idées à lui tout seul. C'est ce qui fait la spécificité du personnage. Mais on apprend au fil des années à prendre le côté positif plutôt que le côté négatif de la chose. Et puis à garder que les bonnes idées et puis à avancer avec ça.
Votre métier est stratégique pour que la machine fonctionne. Mais il reste un métier de l'ombre. Vous gérez comment cet anonymat ?
Alors moi, ça ne me dérange pas du tout, puisque ça me permet de me concentrer sur ce que j'ai à faire, puis de ne pas être en première ligne pour devoir expliquer des choses aux journalistes ou autres. Chacun a son rôle, et je pense que c'est très bien comme ça.
Dans quelle direction voudriez-vous faire évoluer votre métier ?
Comment moi, je veux le faire évoluer ? Je dirais comment le métier va évoluer tout court. Je pense qu'avec la digitalisation la rapidité avec laquelle on va devoir affronter la réalité du métier, il va falloir être très polyvalent et entreprendre des démarches qui permettent rapidement de pouvoir aider la direction à prendre la bonne direction. Donc je pense que le métier va vraiment encore évoluer et être le plus polyvalent possible.
Notamment sous l'impulsion du numérique ?
Du numérique, oui, mais également, comme si on devait imaginer ça, comme un couteau suisse hein, qui permet de sortir le bon outil au bon moment. On est beaucoup plus dans l'anticipation, beaucoup plus dans l'humain également. C'est une bonne chose pour ce métier qui diversifie un petit peu le métier pour l'avenir et qui le rend vraiment plus humain et plus sympa à vivre tous les jours.
Ce podcast vous a été proposé par Romandie Formation et son diplôme fédéral en finance et controlling.